Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes dans le cadre de Actuel et nous avons la joie et le privilège d'accueillir pour une interview l'évêque de l'église épiscopalienne aux États-Unis, notre ami, si je puis dire, John Shelby Spong. Et nous le recevons, celui qui vous parle en ce moment, c'est Laurent Gagnebin, directeur de la rédaction d'Évangile et Liberté et professeur honoraire et doyen honoraire de la faculté de théologie protestante de Paris. Alors, nous recevons notre ami Spong à l'occasion d'un livre qui vient d'être publié en français qui s'appelle « Jésus pour le 21e siècle ». Et c'est Abigail, étudiante en théologie, qui traduira les questions et les réponses de cette interview. Merci Abigail.
Je vous en prie.
D'être là. Alors, ce livre s'intitule donc « Jésus pour le 21e siècle ». Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est, ce livre a été vendu à 150 000 exemplaires, hein, aux États-Unis et en Angleterre. La première question que j'aimerais vous poser, c'est que, pour vous, je crois que c'est très important de parler, non pas seulement comme théologien, spécialiste, technicien des questions bibliques, exégétiques, mais de parler comme évêque, de parler comme pasteur ou gens de la base.
I think that's fair.
Oui, je crois que c'est juste.
It seems to me that the Christian faith has got to be communicated in the language of the century in which we are living.
Il me semble que le christianisme doit être communiqué aux personnes dans le langage dans lequel elles parlent.
We Christians read a Bible that was written finished in the first century of the Common Era.
Nous lisons une Bible qui a été terminée d'être écrite vers la fin du premier siècle de notre ère.
And it assumes all sorts of things that modern people simply cannot assume.
Et elle postule des choses que la plupart des personnes aujourd'hui ne peuvent plus postuler.
Oui, j'aimerais vous dire que le titre anglais de votre livre me semble peut-être à cet égard plus intéressant et plus significatif que le titre mis en français « Jésus pour le 21e siècle », mais en anglais c'est « Jésus pour les non-religieux ». Et finalement, votre livre s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais à tous ceux qui ont quitté les églises parce qu'ils ne peuvent plus supporter ce qu'on y dit, et ils exigent et ils attendent un renouvellement des expressions de la foi. Et puis, vous parlez aussi pour des athées, des agnostiques, des gens qui se posent des questions, voire pour des témoins d'autres religions.
Well, I hope so.
Oui, j'espère.
What I'm trying to do is to enable the spiritual dimension of our humanity to find a way to gain expression in the language and concepts of our day.
Ce que j'essaie de faire, c'est de trouver un moyen pour que les concepts spirituels se traduisent dans un langage actuel.
I don't think people today can envision God as a supernatural being sitting above the clouds. I don't think that makes sense to people today.
Je ne crois pas qu'aujourd'hui les gens puissent concevoir Dieu comme une divinité qui est assise dans les cieux. Je ne crois pas qu'aujourd'hui cela ait un sens pour nos contemporains.
So the story of this God above the sky coming down into human history in the person of Jesus of Nazareth simply doesn't translate to our generation.
Donc aujourd'hui, l'histoire de ce Dieu qui s'incarne dans la personne de Jésus de Nazareth en descendant du ciel n'a plus de sens pour les personnes.
And that's just one of many things that we cannot assume that the Bible assumes.
Et ce n'est qu'une des choses que la Bible postule que nous ne pouvons plus postuler.
Oui, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là dans la Bible. Ce qui me semble intéressant, c'est que ce que vous dites est valable pour la Bible, mais aussi pour les grandes doctrines chrétiennes et pour les confessions de foi chrétiennes.
Oh, absolutely. The creeds are 4th century documents. They are framed inside a Greek worldview. They are dualistic in their nature, and we don't think in those categories today.
Oui, en effet, les credos, par exemple, ont été constitués à peu près vers le IVe siècle, et ce sont des textes, des documents qui sont dans un langage de cette époque et qui postulent la pensée grecque dualiste.
Oui, ce qui me paraît important à cet égard, c'est que la fidélité à ces grands credos, c'est pas de les répéter, mais c'est d'être fidèle à l'effort qu'ont fait ceux qui les ont rédigés pour leur temps. Nous devons nous aussi faire le même effort en rédigeant des credos pour notre temps.
Well, I think that's correct, but that leaves us in a difficult place because there are many parts of the Christian Church that think if you deviate from the standard explanation, you've deviated from God. And
oui.
I believe, for example, that human beings are born in sin. I think that's a concept that's absolutely absurd.
Oui,
but
it
determines a lot of the theology of the Christian Church.
Oui, je pense en effet que c'est ce que vous dites est correct, mais si nous faisons cela, nous nous éloignons d'une partie de l'Église qui, elle, estime que si vous vous éloignez du texte littéral de ces credos, vous vous éloignez aussi de Dieu. Mais par exemple, moi, je ne pense pas du tout que les êtres humains soient nés dans le péché.
Alors, je pense que cet effort, si vous acceptez l'expression de vulgarisation par rapport à la Bible, par rapport aux doctrines chrétiennes, est tout à fait fidèle au projet des réformateurs qui, précisément en abandonnant le latin pour les langues des uns et des autres, ont voulu que la Bible parle pour les gens d'aujourd'hui.
Well, that's been the history of the Christian Church. We've gone through many revolutions.
Oui, c'est l'histoire de l'Église. Nous sommes passés à travers un certain nombre de révolutions.
Christianity was born as part of a Jewish world, and it had to translate itself into a Greek-thinking world by the time the 4th century had come around.
Le christianisme est né dans un monde juif, et vers le 4e siècle, il a dû se traduire dans un monde grec.
A man named Augustine was the great pioneer of that particular Reformation.
Augustin a été un grand père de ce courant.
But by the time the 13th century came along, the world no longer thought in terms of Plato's images, they thought in terms of Aristotle's. And so somebody had to translate the Christian faith into this new medium, and Thomas Aquinas did that.
Et Thomas d'Aquin, par la suite, a continué ce mouvement de réforme.
By the time you get to the Reformation that you're speaking about, it had a great deal of advance in science and our perceptions of the universe and the Enlightenment, and Protestantism in some sense was an attempt to translate Christianity into this new medium, and I think that's all we're doing today, but I think it's a very different world even from the world of the Enlightenment.
Au moment de la réforme, en effet, les théologiens avaient déjà des connaissances scientifiques que Thomas d'Aquin et Augustin n'avaient pas à leur époque. Et donc, en effet, ils ont tenté d'utiliser ce qu'ils savaient pour traduire dans le langage qui était le leur.
Oui, on sait que Augustin, qui a vécu au 4e, 5e siècle, a essayé de faire une synthèse avec la pensée issue de Platon. De même qu'Aristote, qui a vécu au 13e... Thomas d'Aquin, qui a vécu au XIIIe siècle, a voulu faire une synthèse avec la pensée d'Aristote. Et nous devons, nous aussi, inscrire notre foi et la lecture de la Bible dans les concepts et les catégories philosophiques d'aujourd'hui. Mais j'aimerais vous poser une question plus précise encore. Est-ce que vous, qui vous réclamez de la méthode qu'on appelle historico-critique, est-ce que vous ne trouvez pas que le grand malheur de notre temps, c'est que les théologiens, les spécialistes sont au courant de vérités d'ordre historique, critique, exégétique, alors que la base ne connaît absolument pas tout cela.
I think that there's almost a conspiracy of silence, it seems to me.
Je pense qu'il y a presque une conspiration pour le silence, il me semble.
I put that at the hands of the clergy. Most of our clergy are trained in much better theology than they actually deliver when they get into the congregations.
Pour moi, c'est lié à ce que le clergé fait, parce qu'ils ont des connaissances, ils ont une formation dans laquelle ils apprennent beaucoup plus que ce qu'ils disent.
See, I think the church today is more into the business of preserving its religious forms than it is in seeking truth. And that's a turn-off for people. That kind of thing just simply bores people living in our world today.
Je crois qu'aujourd'hui, bien plus que de chercher la vérité, l'Église veut garder le pouvoir et les troupes qu'elle a. Et je crois que c'est quelque chose qui repousse profondément les gens aujourd'hui.
Mais est-ce que je peux me permettre de lire un tout petit passage d'un livre d'Albert Schweitzer? Albert Schweitzer, qui est donc le fameux docteur Schweitzer, mais qui était docteur en philosophie, docteur en théologie, un grand organiste, qui dans son livre, qui a été réédité récemment, hein, « Ma vie et ma pensée », écrit ceci, qui n'a pas besoin de traduire en anglais, « Combien la vérité chrétienne aurait plus de puissance dans le monde actuel si sa relation avec la vérité historique avait été, à tout point de vue, ce qu'elle devrait être ?» Au lieu de lui reconnaître ses droits, chaque fois que la vérité historique la gênait, elle l'a interprétée à sa guise et consciemment ou inconsciemment déguisée, faussée, niée. Aujourd'hui, la situation du christianisme est telle qu'il lui faut lutter durement pour parvenir à ce libre examen au regard de la vérité historique, tant de fois négligée jusqu'ici. Est-ce que vous seriez d'accord, cher ami, pour dire que devant les textes bibliques, quels qu'ils soient, le plus important, après avoir essayé de comprendre ce qu'ils disent, c'est surtout d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, et ensuite ce qu'ils veulent nous dire.
Well, there's even another concept, and that is, what is the context in which that is heard?
Je dirais qu'il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel c'est entendu.
For example, look at what the church has said through the ages about human sexuality.
Par exemple, regardez ce que l'Église a dit au cours des siècles à propos de la sexualité humaine.
All of it is built on the Neoplatonic concept that spirit is good and flesh is evil, souls are good and bodies are evil, God is good and human life is evil. And so we start out with a very negative attitude toward human sexuality.
Tout est basé sur un concept néoplatonicien que la chair serait mauvaise et que l'esprit serait bon, que Dieu serait bon et que les humains seraient mauvais. Que l'esprit serait bon et que la chair serait mauvaise.
I don't know why anybody today would listen to the voices of the Christian Church making pronouncements about sexuality.
Je ne vois pas pourquoi qui que ce soit aujourd'hui écouterait la voix de l'Église quand elle parle de sexualité.
Our history is that we've denigrated women. We've ordered rules against birth control. We've ordered rules against divorce. We've condemned homosexual people. I don't think the church has any knowledge whatsoever that justifies its pronouncements on sexual issues.
Nous avons d'abord dénigré les femmes. Nous avons condamné l'avortement, la contraception. Ensuite, aujourd'hui, nous nous conduisons extrêmement mal envers les personnes homosexuelles. Je ne vois vraiment pas pourquoi l'Église serait légitime pour parler de ça. Elle n'y connaît rien.
I think the most absurd of these is the church's rule that women cannot be ordained priests.
Je crois que la règle la plus absurde dans l'Église est que les femmes ne puissent pas être ordonnées prêtres.
Presumably, women are not made in the image of God, and so they can't represent God before the altar.
Ce serait lié au fait que les femmes ne sont pas à l'image de Dieu et qu'elles ne peuvent pas représenter Dieu devant l'autel.
But the bodies of men are about 99.9% identical with the bodies of women.
Mais en réalité, le corps des hommes est similaire au corps des femmes à environ 99.99%.
So I find it very strange that the church seems to identify that 0.1% of male difference as where God lives, where the image of God is found. I think that's just absolutely absurd.
Je trouve assez absurde que l'Église identifie le lieu du corps humain masculin où se trouverait le divin dans ce mini 0,1% de différence qui existe entre le corps des hommes et celui des femmes.
And when Pope Benedict XVI kept saying homosexuality is deviant behavior, it indicated that he did not know anything about scientific and medical studies of homosexuality for the last 150 years. That's embarrassing kind of ignorance to come out of a leader of the church.
Et quand Benoît XVI a expliqué que l'homosexualité était une attitude déviante, j'estime que c'est une attitude embarrassante, un comportement embarrassant pour l'Église. C'est une ignorance flagrante. C'est une ignorance de ce qu'on sait de la médecine depuis 150 ans.
In the Church of England, which is the mother church of my tradition in America, they still don't believe that women are capable of being bishops. And this is in a nation where Queen Elizabeth sits on the throne and where Margaret Thatcher ran the government for decades. And yet women can run the country, they can be the queen, but they can't be a bishop in the church. There's something ridiculous about that.
En Angleterre, par exemple, regardez l'Église d'Angleterre, elle n'autorise pas encore les femmes à devenir évêques, alors qu'en Angleterre, il y a quand même une reine qui est sur le trône et c'est Margaret Thatcher qui a mené le pays pendant des années. Cette situation est complètement absurde.
Est-ce que je pourrais vous poser une autre question? Concernant maintenant plus précisément votre livre, il y a deux grandes idées dans votre livre que je retiens, mais il y en a beaucoup d'autres, qui me semblent très importantes et très originales. La première, c'est que vous faites un effort considérable pour montrer que Jésus était juif et pour le situer dans le contexte de ce qu'on appelle l'Ancien Testament et dans le contexte du judaïsme.
Ce n'est pas une question, c'est en effet historique.
His name was Yeshua.
Son nom était Yeshua.
Ça ne devrait pas être une question, mais malheureusement, c'en est une.
And Jesus is not only Jewish, his mother and father are Jewish, his disciples are Jewish, and everybody who wrote in the New Testament is Jewish. The only debate is about Luke, who appears to have been born a Gentile, but to have converted to Judaism. So I don't think you can read these Jewish Gospels without a knowledge of what Judaism thinks.
Non seulement Jésus est juif, mais son père et sa mère sont juifs, ses disciples sont juifs, tous les auteurs du Nouveau Testament sont juifs. Il y a peut-être éventuellement une question sur Luc qui aurait été un gentil converti au judaïsme, mais c'est une évidence, tous les auteurs sont juifs.
I am appalled that Christianity has been identified so often with anti-Semitism.
Je suis atterré par le fait que si souvent le christianisme a été associé à l'antisémitisme.
Est-ce que je peux vous poser encore une deuxième question? Je trouve qu'il y a une chose très originale dans votre manière de comprendre les textes bibliques, les évangiles surtout. Vous dites à plusieurs reprises que les auteurs bibliques eux-mêmes ne voulaient pas, en fait, qu'on prenne leur texte au pied de la lettre. Que, dans un sens, ils auraient été contre un certain fondamentalisme, que eux-mêmes étaient déjà dans l'ordre métaphorique.
Yeah, literalism is what I call a Gentile heresy. It comes out of the ignorance of the generations of non-Jewish people who have been interpreting the Bible. You can't open one of the Gospels without being aware that it comes out of a Jewish context. They spend enormous time trying to relate Jesus to the Hebrew Scriptures that we call the Old Testament. Even the sacred days of the Jewish worship year are in the background of at least Mark, Matthew, and Luke. They tie crucifixion to Passover. They tie John the Baptist to Rosh Hashanah. They tie the story of the Transfiguration to the festival of dedication that we tend to call Hanukkah. The Jewish background is all over every page, and to deny it is to simply be in ignorance.
En effet, nier le fait que le contexte juif soit le contexte d'écriture du Nouveau Testament est absolument et simplement de l'ignorance.
Est-ce que vous estimez que ceux qui racontent que Jésus marche sur les eaux, qu'il a multiplié les pains, etc., qu'il a apaisé une tempête, ceux qui écrivaient ces textes, eux-mêmes disaient ou pensaient ou voulaient que ce soit compris comme des images, comme des réalités métaphoriques?
Well, not just that. They were speaking out of a Jewish background.
Oui, et ils parlaient depuis un contexte juif.
If you look at all of the miracles that are attributed to Jesus in the New Testament, the first thing you notice is no miracle is ever applied to Jesus until the eighth decade.
En effet, chaque fois que vous regardez une histoire du miracle, il y a forcément une histoire de l'Ancien Testament qui est liée. Aucun miracle de Jésus n'entre dans l'histoire des écrits du christianisme avant la huitième décennie.
Paul, who wrote between 51 and 64, never mentions a miracle story.
Paul, qui a écrit entre 51 et 64, ne mentionne jamais une histoire de miracle.
They first appear in Mark, they're repeated in Matthew and Luke, and then they're turned into signs when you get to the fourth gospel.
Ils sont introduits par Marc, ensuite ils sont répétés par Matthieu et par Luc, et Jean les transforme en signes.
But if you go back and analyze the miracles one at a time, you'll find that in many cases they are Elijah and Elisha stories or Moses and Joshua stories being refurbished and refitted and expanded and applied to Jesus.
Et si vous regardez les histoires du miracle, la plupart du temps, en fait, ce sont des histoires de miracles de Élie, Élisée, Moïse ou Josué, et ce sont des histoires qui ont été amplifiées ou modifiées.
And then when you get to the healing miracles that people seem to think are all over the New Testament, you discover that one of the signs of the coming kingdom of God in the Jewish world was taken out of Isaiah 35 that said, when the kingdom comes, the blind will see, the deaf will hear, the lame will leap, and the mute will sing. And so all of these are attributed to Jesus because they thought he was the inbreaking of the kingdom of God. It has nothing to do with doing miracles and healings.
Et quand vous regardez les histoires de guérison, vous comprendrez que si vous lisez Ésaïe 35, il est question du fait que le moment où le Messie viendra, alors les gens seront guéris, les muets pourront parler, les sourds pourront entendre.
The two that you referred to, walking on water and feeding the multitude with a limited number of loaves and fishes, they come right out of the Moses saga. Moses had power over water. He could split the Red Sea. Jesus has power over water. He could walk on top of the water.
Ce que vous avez mentionné, les miracles précisément que vous avez mentionné, c'est-à-dire marcher sur l'eau et nourrir des personnes avec et deux poissons, ce sont des histoires de Moïse. Moïse avait du pouvoir sur l'eau et il avait aussi le pouvoir de nourrir le peuple avec la manne.
The feeding of the multitude story is nothing but attributing to Jesus the manna in the wilderness story from the Moses saga. God can feed God's people is what that says.
L'histoire de Jésus qui nourrit les personnes avec les pains et les poissons, c'est uniquement une reprise de l'histoire de Moïse avec la manne, et c'est une manière de Dieu que c'est une manière de dire que Dieu nourrit le peuple à travers ses prophètes.
If we really could feed multitudes of people with five loaves and two fish, there would never be any world hunger. There's obviously still world hunger.
Si nous pouvions effectivement nourrir des milliers de personnes avec uniquement cinq pains et deux poissons, il n'y aurait pas de famine dans le monde. Or, il y a des famines dans le monde.
Oui, nous sommes donc dans le cadre d'une émission actuelle avec John Spong, John Shelby Spong, évêque de l'église épiscopalienne. Je dis pour ceux qui écoutent cette émission et qui l'ont prise en cours de route, et nous nous penchons plus particulièrement sur un livre remarquable qui vient d'être édité en français, « Jésus pour le 21e siècle », publié par Cartala. Je crois que c'est important de le signaler, c'est tout à fait récent. Et ce livre a été, dans son édition originale déjà, vendu à 150 000 exemplaires, c'est-à-dire en anglais. J'aimerais vous poser encore une question. J'ai l'impression que pour vous, le témoignage de Paul est très important et nos auditeurs ou auditrices souvent ne le savent pas. Paul a écrit en fait ses textes avant que les évangiles soient mis par écrit. Par exemple, pour la résurrection, il ne parle jamais du tombeau vide. Cela n'apparaît pas, alors que le Christ mort et ressuscité est au centre de sa pensée.
Paul seems to be very, the writings of Paul seem to be very important to you, but what people often don't know, maybe our listeners don't know it, is that Paul wrote before the gospel writers did, and he does not mention an empty tomb, but resurrection is at the core of his faith.
That's right, but he spends about one line talking about it. He gives a list of people that to whom the risen Christ was supposed to have appeared. He gives no narrative details, and he includes himself in that list. And Paul came into the Christian faith between 1 and 6 years after the crucifixion.
En effet, mais Paul ne parle de la résurrection qu'en une ligne. Il ne mentionne absolument pas une réanimation physique. Et il parle de la vision qu'il a eue de Jésus ressuscité. Et il dit qu'il a eu la même expérience que des personnes qu'il cite. Or, lui a eu cette expérience beaucoup plus tard.
People need to recognize that Paul died about 8 years before the first gospel was written. He never knew there was a gospel. And you, when you read Paul, you discover he didn't know anything about John the Baptist. He didn't know anything about Judas Iscariot. There are just a number of things that have not yet developed in the tradition, and Paul does not obviously cover them.
Paul est mort environ 8 années avant que le premier évangile soit mis par écrit finalement. Et si vous lisez les écrits de Paul, vous vous rendrez compte qu'il ne parle jamais de la naissance virginale ou de Judas Iscariote. Ce sont des traditions qui n'ont juste pas émergé au moment où Paul écrit.
Il y a une affirmation de Paul qui pour vous est très très importante, c'est « Dieu était en Christ ». Et c'est Paul qui dit cela. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
The statement that Paul makes, « God was in Christ ». Seems to be important to you. How would you explain? What does it mean to you?
Well, I think that what is happening is that people had a powerful experience that was transcendent in the person of Jesus of Nazareth, and they related that powerful transcendent experience to the reality of God.
Je crois que les personnes qui ont rencontré Jésus ont eu une expérience très puissante avec eux, une expérience qui relève de la transcendance, et je pense qu'ils ont reconnu cette transcendance comme étant une transcendance divine, et je pense que c'est de ça qu'ils parlent.
And then they began to try to figure out how God, that they believe lived above the sky, got into Jesus, who lived on the earth, so that they could experience God in Jesus. And that was the great debate in the New Testament.
Ensuite, ils se sont demandé comment Dieu, qui, selon eux, vivait au ciel, avait pu se retrouver dans Jésus. Et c'est cette manière dont Dieu a pu être en Jésus qui est l'objet des questions dans le Nouveau Testament.
Paul says, for example, that God entered Jesus at the time of the resurrection. But Mark says that God entered Jesus at the time of the baptism. Matthew and Luke say God entered Jesus at the time of conception. And John says Jesus was part of who God is from the beginning of creation. Those are all explanations trying to make sense out of a primary experience.
Pour Paul, Dieu entre en Jésus au moment de sa résurrection. Pour Marc, cela date du moment de son baptême. Pour Matthieu et Luc, cela arrive au moment de la conception virginale. Et pour Jean, enfin, Jésus fait partie de l'existence de Dieu dès la création.
Oui, j'aimerais encore vous demander une chose que nos auditeurs peut-être et nos auditrices, question qu'ils se posent. Dans tout cela, est-ce qu'on ne pourrait pas dire et redire tout ce que vous affirmez sans avoir besoin de Dieu ? Et si Dieu implique une vérité, laquelle pour vous est-ce la catégorie de la transcendance, par exemple?
Well, that assumes that human beings have the capacity to embrace the truth of God, and I think that's again a human fallacy. I don't think an insect can tell you what a bird is like. I don't think a horse can tell you what a human being is like. And I don't think a human being can tell any other human being what God is like.
Je ne pense pas qu'un être humain puisse dire ce qu'est Dieu ou qui est Dieu. Je ne pense pas qu'un insecte puisse concevoir ce qu'est un oiseau, un être humain. Je ne pense pas qu'on puisse le penser dans nos catégories humaines.
All we can really do is tell one another what we believe our experience of God is, and we might be crazy. We might be delusional.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous dire les uns aux autres quelle expérience de Dieu nous faisons, mais nous pouvons très bien être en plein délire.
But it certainly doesn't make much sense to burn people at the stake because they disagree with my experience. That's a really strange thing that's happened in Christian history.
Mais cela a quand même peu de sens de brûler quelqu'un sur un bûcher parce qu'il ne dit pas avoir la même expérience de Dieu que moi. C'est un moment étrange de l'histoire chrétienne.
Oui, votre livre, me semble-t-il, a une force particulière parce qu'il ne s'adresse pas seulement à des croyants, à des chrétiens, à des témoins d'autres religions. Mais il me semble avoir une parole forte, justement, pour les athées ou pour les agnostiques.
Well, I hope so.
Je l'espère.
But once again, our language is so strange. An atheist really does not mean one does not believe in God.
Mais encore une fois, notre langage en fait est assez étrange parce que quelqu'un qui est athée, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne croit pas en Dieu.
Atheist means you do not believe in a theistic definition of God. That is quite different.
Être athée signifie que vous n'avez pas une vision théiste de Dieu. C'est une chose assez différente.
And the theistic definition of God defines God as a being supernatural in power, living somewhere above the sky and periodically invading the world to do miracles, all of which makes no sense to modern men and women.
Et le théisme définit Dieu comme un être supernaturel, vivant, surnaturel, vivant au-dessus des cieux, et qui a des pouvoirs, et qui envahit le monde à travers la personne de Jésus, et cela n'a juste plus de sens pour les personnes aujourd'hui.
I think it is quite possible for people to believe in a non-theistic definition of God and still profoundly believe in God.
Je pense qu'il est totalement possible pour des personnes de croire en un Dieu qui n'est pas dans une définition théiste, mais pour autant d'être authentiquement croyant.
And most atheists, when they really tell you about why they think the way they think, most of them are telling you that they can't accept this supernatural old man in the sky image of God. Well, I can't either, and I think it's time we embrace the atheist with something other than condemnation.
Quand un athée explique pourquoi il est athée, en général, il vous explique qu'il ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait un dieu qui ressemble à un vieux monsieur sur un nuage et qui ait des super pouvoirs. Et en réalité, moi non plus, je ne peux pas accepter cette définition-là de Dieu. Je pense qu'il est temps que nous regardions l'athéisme avec autre chose que de la condamnation.
Oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour penser beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs ont peur de dire tout ce que vous venez de nous dire si justement, avec tant de profondeur et de sincérité, parce qu'ils prétendent que ça va vider nos églises, ça va vider nos temples. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire, il y a longtemps qu'avec nos langages conventionnels, traditionnels, dépassés, nous avons vidé les églises.
They have already left. Yeah.
Oui, ils sont déjà partis.
Oui, c'est ça.
Christian leaders find they're very difficult to understand.
Les personnes qui sont au poste dirigeant dans le christianisme sont des personnes assez complexes à comprendre.
The Christian church is dying in the developed world today.
L'église chrétienne est en train de mourir dans le monde actuel.
And the best definition of insanity that I've ever heard is you keep doing the same thing that isn't working and think it's going to be different.
La meilleure définition que j'ai pu entendre de la folie est que on répète un comportement qui ne marche pas en espérant qu'il va finir par produire un effet différent.
For 21 years, I served my church as a parish priest with a congregation. I said all of these things, and every one of those churches grew, but they grew with people who had been church dropouts.
Pendant 21 ans, j'ai été prêtre et j'ai expliqué ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Et en réalité, la communauté dans laquelle j'étais a toujours grandi. Et c'était des personnes qui avaient quitté l'église qui, en fait, revenaient.
When I was the bishop of Newark, where I served for 24 years, I find it really interesting that 11 of my clergy were elected bishops in other parts of the American Episcopal Church. That sort of indicated that people were looking for the sort of things we were offering.
Quand j'étais évêque de Newark pendant 24 ans, j'ai remarqué que cela avait du succès comme démarche.
The dean of the American Cathedral here in Paris is a woman priest who served in my diocese with a number of years and was one of the outstanding clergy that we produced.
Une des personnes que nous avons produites dans mon diocèse de Newark est la doyenne actuelle du temple épiscopalien américain de Paris.
Oui, je pense que ce que nous devons aussi retenir de votre parole, c'est l'importance des moyens de communication, parce que ce que vous voulez dire à ceux que nous ne voyons pas tous les dimanches à nos cultes, mais il faut le dire soit par la presse, soit par la radio, soit par la télévision, et ce sont là des instruments décisifs pour parler à d'autres gens que ceux que nous avons peu nombreux à nos cultes dominicaux.
Well, I think you use what's available to you.
Je crois qu'on utilise ce qui est disponible.
I write a column every week on the web that every week reaches somewhere around 100,000 people. That's a bigger pulpit than I ever had when I was either a priest or a bishop.
J'écris une chronique chaque jeudi qui a environ plus de 100 000 lecteurs, et c'est un public qui est bien plus large que n'importe quel public que j'ai pu avoir devant moi un dimanche matin.
And my books have sold well over 1 million copies, so somebody must be interested in reading them.
Et mes livres se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires, donc il doit bien y avoir quelqu'un que ça intéresse de lire ce genre de choses.
Oui, je crois que c'est important de signaler, je fais une petite note en bas de page, que la plus beaucoup de vos textes, de ces lettres pastorales, sont publiés sur le site de Gilles Castelnau, Protestant dans la ville, parce que là, il y a vraiment une abondance de textes simples, écrits pour nous, et qu'il faut... Ces textes sont en français, ils ont été traduits par Gilles Castelnau, et qu'il faut absolument lire. Est-ce que je peux encore... Vous demandez si vous aimeriez, dans le cadre de cette émission, nous dire quelque chose d'ultime et de décisif pour conclure.
Well, let me go back to my favorite text.
Laisse-moi revenir à mon texte préféré.
I think the purpose of the Christian faith is not to save sinners or to rescue people from a fall that never happened or to restore them to a relationship with God that they've never had.
Je pense que le centre de la foi chrétienne n'est pas de sauver des pécheurs ou de restaurer une perfection que nous aurions perdue ou une relation avec Dieu que nous aurions perdue.
I think the ministry of the Christian church is to fulfill what Jesus states as his purpose in the fourth gospel, to give life to people and to give it abundantly, not to condemn them, but to expand their potential.
Je pense que le ministère doit être, de l'Église ne doit pas être autre chose que celui du ministère, que celui du Christ était, c'est-à-dire de permettre la vie en abondance pour ceux qui étaient autour de lui.
God to me is the source of life calling me to live fully.
Pour moi, Dieu est la source de la vie qui m'appelle à vivre pleinement.
God to me is the source of love, free me to love beyond my limits.
Dieu pour moi est la source de l'amour qui me libère pour aimer au-delà de mes limites humaines.
God to me is the ground of all being, giving me the courage to be everything that I can be and the capacity to help others be everything they can be.
Pour moi, Dieu est le fondement de l'être qui me donne la capacité d'être tout ce que je peux être et d'aider les autres à être tout ce qu'ils peuvent être.
And that is why a church that spends its energy condemning women's humanity or gay and lesbian people's humanity or Jews' humanity or Muslims' humanity, to me, is simply a church that doesn't know what the Christian gospel is all about.
Et pour moi, une église chrétienne qui condamne les femmes ou les homosexuels ou les musulmans ou les juifs est tout simplement une église chrétienne qui ne comprend pas le message chrétien.
So I'm really happy to be a Christian and to try to bring what I think is the essential Christian message to a world that has not heard it for many, many years.
Donc je suis ravie d'être chrétien et d'essayer de porter le message chrétien que des personnes n'ont pas entendu depuis un certain nombre d'années.
And I thank you for giving me this opportunity.
Et je vous remercie de m'avoir donné cette chance.
Eh bien, nous vous remercions infiniment, John Schelde-Spong, pour cette interview, pour la manière dont vous nous redonnez envie d'être chrétien si nous ne le sommes pas. Et je rappelle votre livre, qui est l'occasion de cet entretien, « Jésus pour le 21e siècle », publié chez Cartala tout récemment. Ce livre, qui est déjà l'objet d'un grand succès dans la francophonie, mais qui l'a été encore bien plus en langue originale, à savoir des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires.
Plus de 100 000, il me semble.
Thank you.